Les radios francophones publiques présentent Michel Berger, Tout pour la musique. Une série en 9 épisodes réalisée par Cécile Posse et mise en onde par Pierre Devalet.
J'ai une adoration pour le chocolat et pour Gershwin.
Michel Berger, c'était un artiste au sens le plus complet.
Il a une grande sensibilité dans sa musique.
C'est une chance fantastique de pouvoir avoir un don dans le domaine artistique.
9e épisode, A Frenchman in New York.
Et lui avait une tellement belle âme qu'elle peut échapper à personne.
Il avait un charme incroyable.
Le moment dans sa vie où il était le plus heureux, c'est quand il faisait de la musique.
J'ai une réputation plutôt difficile parce que je suis assez exigeant.
Michel est un mélodiste fantastique.
Ses chansons sont intemporelles.
Michel est quelqu'un de très actif.
Michel avait beaucoup d'humour, évidemment, très fin, très très fin.
Il aimait bien dire des bêtises.
Vos noms, prénoms, âge et qualité?
Alors, Michel Berger.
Oui.
Et qualité? Chanteur, auteur, compositeur, ACI.
Prouvez-le.
Michel Berger est au sommet de sa carrière en France, mais il rêve de conquérir l'Empire américain. En 1980, Elton John le contacte. Michel écrit alors deux chansons qui seront interprétées par France Gall et Elton John. Deux ans plus tard, aux États-Unis, il sort un disque en vue d'un spectacle musical. Originellement, Michel veut l'appeler « A Frenchman in New York », en référence à George Gershwin et à son œuvre « Un Américain à Paris ». Le disque porte finalement le titre de « Dreams in Stone ».
Alors Michel, il avait son rêve, c'était de prendre une dimension internationale.
Bernard de Bosson, son ami et son producteur.
Pas du tout pour devenir je sais pas quoi. C'est qu'encore une fois, Michel, quand il avait conçu quelque chose, il voulait aller au bout de sa démarche. Et comme ses musiques et sa créativité, etc., pouvaient parfaitement prendre une dimension tout autre que la seule et unique dimension francophone et hexagonale, il m'avait parlé, il me dit, il voulait faire des choses. Et je lui ai dit, écoute, on a une maison aux États-Unis formidable. On s'est pointé aux États-Unis et c'est Warner, c'est nous qui avons produit l'album Dreams.
Michel Berger était obsédé par l'Amérique.
Yves Bigot, directeur de TV5 Monde et auteur d'une biographie sur Michel Berger.
Parce qu'il voyait bien que c'était là-bas que ça se passait, que la nouvelle société s'inventait par la musique américaine aussi, notamment par Gershwin. Et son obsession était de dire, mais si les Américains y arrivent, on doit pouvoir y arriver aussi. Et si on y arrive, il faut qu'on aille montrer aux Américains qu'on sait le faire.
J'ai la chance qu'on m'ait demandé de faire un disque pour les États-Unis et je fais un disque instrumental avec un certain nombre de grands musiciens américains et puis pas mal de gens assez connus là-bas et qui est un disque vraiment de musique que je voulais faire depuis très longtemps, qui n'est absolument pas un disque de chansons, que de la musique.
Avec des paroles en anglais, écrites par différents paroliers en anglais et interprétées par des chanteurs comme Bill Withers, qui était déjà une star, hein, avec Ain't No Sunshine, When She's Gone, et Use Me et d'autres tubes comme ça. Et des gens qui sont devenus des vedettes plus tard, comme Rosanne Cash, la fille de Johnny Cash. Un album moitié instrumental, moitié chanté. Alors les Américains ne comprenaient rien à ça. La meilleure preuve, c'est qu'il a eu une critique saluant le très intéressant album du saxophoniste français Michel Berger. Alors que c'était David Sanborn, effectivement, très bon saxophoniste, mais qui jouait du saxophone, et Michel ne jouait pas du tout de saxophone. Il jouait d'ailleurs quasiment pas de piano. Il était en fait le compositeur de cet album, puisqu'il avait pris même Nicky Hopkins comme pianiste, etc., qui était bien meilleur que lui, évidemment. Parce que Michel, ce n'était pas un très très bon pianiste. Hein. Les musiciens même de studio français se moquaient un peu de lui, en disant qu'il jouait avec des moufles, etc. C'était un compositeur au piano, mais c'était pas du tout un virtuose, contrairement à ce que les gens imaginent. Non, Michel, il sait jouer du piano, il sait très bien composer au piano, mais c'est pas un virtuose. Et ce disque a eu un certain nombre de bonnes critiques, mais voilà, n'a pas été un succès aux États-Unis. Alors il s'est heurté à différentes difficultés du business américain, dont il a évidemment découvert l'immense complexité. Et puis le problème aux États-Unis, c'est qu'il faut y vivre, c'est qu'il faut y tourner à longueur de temps, etc. et Michel pouvait pas s'investir de cette manière-là parce qu'il avait sa propre carrière en France, la carrière de France à mener parallèlement. Puis il avait des milliers de projets en même temps, parce qu'en même temps que ça, il avait la légende de Jimmy qui allait se monter, il avait toujours Starmania qui voulait monter aux États-Unis. Enfin, ça a été compliqué. Puis il y a un moment, ben, comme Véronique d'ailleurs, il y a un moment, ils ont bloqué parce qu'ils n'ont pas voulu accepter les règles et les diktats du business américain. Et du coup, ben, malheureusement, hein, face à la machine américaine, si on n'accepte pas de jouer le jeu, on n'est pas plus fort qu'elle, hein, donc on passe pas. Mais il avait trop de fer au feu.
Durant cette année 1982, le 26 janvier, Bernard, le frère aîné de Michel, succombe à la sclérose en plaques.
Il y a des drames qui vont se jouer dans sa vie, qui est d'abord son frère, Bernard.
Mathias Goudot, réalisateur de documentaires.
Bernard Burger, qui est donc un architecte reconnu. Des reportages ont été faits sur lui, juste pour signifier les reportages, pour dire combien il est novateur. Il fera des gares et des choses comme ça dans des villes nouvelles. Bref, c'est un artiste en partie, puisqu'il peint aussi. Mais c'est un architecte reconnu. Donc lui aussi, dans son art, comme leur père, comme leur mère, et comme évidemment Michel aussi, il sera reconnu. Et il se trouve que ce frère est malade, et que pendant les répétitions du Palais des Sports de France Gall, Michel file à Necker le soir pour assister son frère, dans en tout cas ce qui seront ses derniers jours, puisqu'il va là perdre son frère, qui est effectivement quelque chose d'encore douloureux pour lui. On peut évidemment repenser au départ de son père, au départ de Véronique Sanson. Forcément, c'est un abandon de plus. Il se trouve qu'on ne peut pas le comparer à 100%, sachant que là, c'est évidemment pas un abandon volontaire de la part de la personne qui s'en va, loin de là. Mais voilà, donc c'est encore un coup très dur.
Michel m'a beaucoup parlé de son frère, par contre.
Bernard de Bosson.
Michel était... Ça a été un drame dans sa vie, un drame épouvantable. Il me parlait toujours de son frère qui s'appelait Bernard, hein, qui était pour lui une référence incroyable. Je pense qu'il... Je sais pas quelle différence d'âge ils avaient, mais je pense qu'il avait 7, 8 ou 10 ans de plus que lui. Il avait une passion pour son frère, une véritable passion pour son frère.
Alors, la mort de Bernard, c'était en 1982.
Émilie Marx, sa nièce.
Je me rappelle d'abord de l'annonce de la fatalité de l'issue de sa maladie, où tout le monde était très triste parce qu'impuissant. Je me rappelle quand il était en fauteuil roulant, et je me rappelle qu'il fallait vraiment entourer Anatas en Burger, qu'on appelle Mamoun. C'était très important d'entourer Mamoun, de lui montrer qu'on était là, parce qu'il ne restait pas beaucoup de monde dans la famille, parce que c'est l'épreuve la plus terrible qui puisse arriver à une mère, et c'est l'épreuve la plus terrible qui puisse arriver à un frère et une sœur, de perdre leur frère aîné, c'est terrible. Alors il fallait beaucoup l'entourer. Et à sa mort, je me rappelle, chaque année, le 26 janvier, on allait au cimetière sur la tombe de Bernard, et puis je me rappelle d'une fois où on avait apporté en surprise à Mamoun ce jour-là, au cimetière, un peu de viande des grisons, parce qu'elle adorait ça, pour la consoler un peu.
Quelques semaines, quelques mois plus tard, mais pas beaucoup plus, ils vont apprendre que leur fille, Pauline, fille de France Gall et de Michel Berger, est atteinte de mucoviscidose.
Mathias Goudot.
Donc qui, encore une fois, est une sorte de drame pour Michel Berger. Ça l'est pour tout le monde, c'est une évidence et il n'y a rien à dire là-dessus. Mais pour lui, c'est encore une fois ce temps qui passe et avec la peur de perdre les gens. Il y a cet abandon. Alors là, on est sur une maladie incurable. Il se trouve que, il ne s'agit vraiment pas de rire avec ça, mais ironie du sort, son père, avec qui il a des soucis de relation, est un grand professeur. Ce qui va évidemment l'amener à le revoir pour sa fille, ou pas. Mais en tout cas, ils vont discuter de ça, c'est évident. Ils vont déjeuner et faire des repas ensemble avec un autre professeur que j'ai rencontré. Les relations ne seront pas des relations, on va dire, amicales ou familiales. Elles, peut-être, mais en tout cas, elles seront au moins des relations professionnelles à propos de la maladie de Pauline et à propos de cet univers médical qui est celui du père de Michel Berger. Donc cette année 82 est très difficile et il semblerait que voilà, Michel Berger va ensuite s'évader, entre guillemets. Ils vont partir avec France, voyager et faire d'autres choses. En tout cas, il sait là, Michel Berger, qu'il va devoir affronter d'un côté une épreuve de la vie et d'un autre côté voir la vie donc d'une manière différente, ça c'est sûr. Après... un, la disparition de son frère, et deux, l'épée de Damoclès qui pèse sur la tête de sa fille.
Alors, la maladie de Pauline, on n'en parlait pas du tout. On le savait tous.
Émilie Marx, sa nièce.
On voyait Pauline qui souffrait par moments. On voyait Pauline qui avait un traitement assez dur. Pauline était une fille très, très drôle. Très, très vivante. Très, très charmante. Hyper coquine. Avec des bonnes idées de bêtises à faire. Et je la suivais et on était vachement contentes. Et on a vachement rigolé. C'était comme une sœur. C'était la sœur que j'avais pas, en fait. Parce que déjà, on passait nos vacances ensemble, beaucoup de week-ends. Puis on avait peur des abeilles à la campagne. Et des araignées, bien sûr. Et on rigolait beaucoup. On a beaucoup rigolé avec Pauline. On a passé des chouettes moments, vraiment. Je me rappelle qu'un jour, on a fait le mur. On est parti de la maison. Et on a marché beaucoup de kilomètres. Bon, avec le recul, je sais que c'est 1,5 km. Mais quand on est petite, ça fait beaucoup. Et on est allé jusqu'à la ville à côté. Et puis on était contentes, on avait réussi notre truc. Puis on était rentrées et personne ne l'a jamais su.
Reste, reste, côté de moi. Reste, reste, moi aussi j'ai froid et peur que tous les autres nous aient oubliés.
Il y a une sorte de blocage comme ça à parler de ce qui est du registre de l'intime.
Didier Varro.
La mort de son frère, les relations très conflictuelles avec son père. Tout ça, il le garde. Quand vous essayez de lui en parler, il y a une vraie barrière qui s'instaure. Tout d'un coup, vous entrez dans un domaine qui n'est plus celui du journaliste. Et donc vous avez quelqu'un qui ne se livre pas. Donc ça fait quelqu'un d'assez complexe et mystérieux. C'est très difficile de décoder la pensée de Michel Berger quand on est journaliste, parce qu'effectivement, la part d'intime n'est pas développée et que lorsque vous lui en parlez, il vous dit « mais tout est dit dans mes chansons ».
Michel, lui, très pudique, parlait de rien, de sa vie privée, il y avait plein de secrets.
Serge Perratonnerre, son claviériste.
On l'a découvert après sa mort dans des émissions de télé, enfin, j'en fais des recherches. Je connaissais absolument rien et personne ne connaissait. Il y avait des bruits qui couraient, il paraît que machin, mais tellement on avait envie de respecter Michel et surtout pas aller plus loin pour savoir ce qui... Non, non, on ne connaissait pas du tout, c'était ultra pudique.
Michel a toujours été quelqu'un d'extrêmement discret sur sa souffrance.
Yannick Top, son bassiste.
Je crois qu'il a beaucoup, beaucoup souffert et je crois que ça ne se voyait pas. Il a toujours caché sa souffrance. Il n'a jamais pollué son entourage avec sa souffrance, en tout cas nous. Il ne dit rien. Sur rien.
Je pense qu'il avait au contraire du punch, un besoin de vivre.
Patrick Haas, son cousin.
D'énergie, la famille était très importante pour lui, ça a été le socle sur lequel il s'est construit, et puis évidemment sa carrière professionnelle. Et je pense qu'il avait le ressort.
Je crois que Michel avait une joie intérieure.
Yannick Top, son bassiste.
Sa joie était toujours empreinte de certaines intelligences. L'intelligence n'est pas forcément toujours joyeuse de façon évidente, mais au fond, c'était quelqu'un de joyeux.
Il aimait beaucoup rire, il aimait beaucoup les gens qui le faisaient rire.
Luc Plamondon.
Il ne riait pas spontanément, lui ne faisait pas d'humour, mais il adorait les gens qui le faisaient rire. Mais c'est quelqu'un qui était profondément heureux, c'est quelqu'un qui se levait le matin, qui était dynamique, enthousiaste, et qui était toujours enthousiaste. Il refusait l'échec, il refusait le malheur. Il me faisait penser un peu à la citation que j'avais découpée dans une interview d'Einstein, où il disait « Dans la vie, il faut privilégier le bonheur ». Eh bien, ça le définit assez bien comment il était.
C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix. Si tu l'as, tu l'as, elle a, elle a. Je ne sais quoi. Que d'autres n'ont pas. Qui nous met dans.
Michel Berger, tout pour la musique.
Michel Berger se passionne pour la musique américaine depuis sa plus tendre enfance. Il tenait même un cahier dans lequel il écrivait notamment sur Ella Fitzgerald. En 1990, la légende de Jimmy est à l'affiche du théâtre Mogador. C'est le deuxième opéra rock de Luc Plamondon et de Michel Berger. Michel est fasciné par l'Amérique. Ce n'est donc peut-être pas un hasard si son deuxième opéra rock s'inspire de la vie éclair d'une star américaine, James Dean.
Il y a une sorte d'initiation à la mort, comme ça, très bizarre. C'est le sujet du show beaucoup plus, parce que, évidemment, c'est vrai que c'est l'itinéraire de James Dean, mais c'est aussi cette espèce de moment de la vie dans l'adolescence qui est un moment très très intense. Je pense que les artistes se sentent très proches de l'adolescence parce que c'est ce moment où on est certainement plus proche de la mort qu'après et où on est aussi, on a une demande énorme, on a une sorte de moment de grâce en même temps très angoissant, très proche de la mort. Et ça, c'est vraiment l'incarnation de ça, le personnage de James Dean. Puisqu'il n'a été finalement qu'un adolescent très fort, il a eu une jeunesse, une enfance plutôt pénible, pas très forte. Lui avait une prémonition de sa mort qui est très très spectaculaire dans les interviews qu'on lit de lui. C'est comme s'il avait eu peu de temps devant lui et ça aussi c'est quelque chose qui nous a paru très très actuel parce que les adolescents des années 90 sont des gens qui sont d'abord qui sont confrontés beaucoup avec la mort, avec la drogue, le sida et la vie qu'on peut avoir en ce moment et en même temps qui ont cette demande très très forte et puis ce peu d'avenir devant eux. Je veux dire, je me souviens que dans les années 70, on avait vraiment une idée globale de sa vie. On avait une espèce d'idéal de la structure de sa vie, alors que je trouve que les adolescents maintenant voient leur vie beaucoup plus immédiate, une espèce d'urgence de vie. Et ça, c'est vraiment ce que représente James Dean dans son itinéraire, de manière très très forte.
Il considérait que c'était la plus belle musique qu'il avait faite dans sa vie.
Luc Plamondon.
Il avait dit à Jacques Attali qu'il me l'a répété, à Ronnie Clatman, à des gens comme ça qui me l'ont répété. Et il me l'avait dit à moi aussi.
Que serait ma vie sans lui? Je ne saurais plus qui je suis. S'il fallait je l'oublie.
Michel là, est revenu à ses sources classiques. Il s'est arrangé avec beaucoup, beaucoup de cordes. Et dans mon écriture aussi, j'étais plus poétique peut-être que nulle part ailleurs parce que ça devait être comme un grand poème symphonique, en fait. Hein, et un ballet sur un grand poème symphonique et rock. Hein. Et donc, c'est devenu un opéra rock. Mais ça n'a pas été traité comme ça. Jérôme Savary l'a monté comme une comédie musicale de Broadway, comme ça se passait dans les années 50 à New York. C'était une très belle mise en scène, mais moi, je pense qu'on pourrait le remonter beaucoup plus opéra rock, moins comédie musicale.
Michel, il aurait eu une dimension internationale incroyable.
Bernard de Bosson.
Il y a eu la fameuse histoire de la légende de Jimmy, parce que la légende de Jimmy, il avait quand même un projet magnifique, c'était quelque chose auquel il croyait beaucoup, il avait très envie de... Et ça ne s'est pas vraiment passé comme il fallait, alors... Je pense pas que ce soit véritablement sa responsabilité.
Alors, spectacle...
Yannick Top. Son bassiste.
Extrêmement particulier parce que je crois me souvenir que c'est tombé au moment de la guerre du Golfe, quand c'est sorti. Et donc, tout le monde était préoccupé par les bombardements, les machins, les trucs. C'était pas le moment de sortir une comédie musicale. Et je crois que la guerre a éclaté 2-3 jours avant le spectacle ou quelque chose comme ça. Donc déjà, ça a pas aidé. Et puis, en plus, c'était un spectacle extrêmement triste. Et puis, guerre du Golfe. Et production qui s'est arrêtée. Donc, catastrophe totale.
Nous sommes à Paris, le 1er février 1992. Jean Burger, le père de Michel, vient de mourir.
Le professeur Jean Burger est mort samedi dernier à Paris. Il était âgé de 82 ans. C'était une sommité du monde médical, le père de la néphrologie mondiale, l'initiateur des greffes de reins. Ses obsèques ont eu lieu hier matin dans la plus stricte intimité au cimetière de Montparnasse. Le professeur Burger, membre de l'Académie française et de l'Académie de médecine, c'était un des piliers de l'hôpital Necker où il avait réalisé ses premières greffes du rein.
Je
pas de relation du tout avec son père pendant des années.
Yves Bigot.
Et ils ne renoueront que beaucoup plus tard, vers la fin de la vie de Michel, quand son frère sera malade, puisqu'il fera appel à ce moment-là à son père en disant « Tu es une des sommités mondiales, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour le sauver ?» Mais leurs relations resteront extrêmement froides, y compris quand ils se parleront. Il y a d'ailleurs une émission à la télévision française du professeur Amburger où ce qu'il dit de son fils est à la fois laudatif mais incroyablement distant. On a l'impression qu'il parle de quelqu'un qu'il ne connaît pas. C'est très frappant et c'est presque glaçant la manière dont il parle de lui, comme s'il parlait de quelqu'un qu'il n'aurait jamais connu ni rencontré, d'un autre artiste en fait, qui ne serait pas de sa famille. Et puis ce qui va être encore plus traumatisant à la mort du professeur Amburger, c'est que ses enfants vont s'apercevoir qu'ils ne figurent pas dans son testament. Donc jusqu'au bout et jusqu'à la fin, il les aura niés.
Quelques jours après, le notaire se présente face à quatre personnes. Franca, la sœur de Michel Berger, Michel Berger lui-même, et la veuve du frère de Michel Berger et son fils.
Mathias Goudot.
Il ouvre le testament, effectivement, les enfants, il y a 17 légataires, mais pas les enfants. Pas ses propres enfants. Donc il a eu une autre vie, le père de Michel Berger a eu une autre vie, il a rencontré d'autres personnes. Il va léguer également une partie à la recherche, c'est-à-dire à des gens qu'il a connus dans son travail, mais pas à sa famille directe et donc pas à Michel Berger.
Et Michel est sorti de chez le notaire.
Grégoire Collard.
Il a regardé sa mère et il a dit « Quel salaud, jusqu'au bout !»
Et surtout, Michel Berger attendait de cette ouverture d'enveloppe une explication au départ du père, semble-t-il, qu'il n'a jamais eu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il attendait. Il y a un héritage, c'est une chose, mais il y a presque plus l'héritage familial et l'héritage de sa propre histoire, Michel Berger. Donc il n'a pas ça. Donc c'est un coup dur pour Michel Berger. Encore une fois, plus qu'un héritage, il n'avait pas besoin de l'héritage matériel. C'est le symbole de pourquoi tu es parti, ou en tout cas, pourquoi la vie a été sans nouvelles à ce point-là.
C'est quand même quelque chose d'extrêmement troublant, interpellant, et un mystère. Les motivations et les raisons sont un mystère qui n'aura jamais été élucidé. Ne serait que Franca a découvert, donc après la mort de son père, dans un placard, un sac dans lequel étaient toutes les lettres que sa mère, donc la femme du professeur Amburger, lui a écrites toutes les semaines pour lui donner des nouvelles de ses enfants. Ces lettres avaient été ouvertes et elles avaient été lues. Ça se voyait, mais il n'a jamais répondu à une seule d'entre elles.
Alors Jean Burger, c'était pas un sujet tabou, c'était juste quelqu'un de très éloigné.
Émilie Marx, sa nièce.
J'ai voulu le rencontrer. En 1992, j'avais appris qu'il faisait des dédicaces au bon marché, et j'y suis allée, j'ai fait la queue comme tout le monde pour dédicacer un livre, que j'ai choisi au hasard dans la pile d'ailleurs. Et quand c'était à mon tour, il fallait que je marque mon nom sur un petit papier pour pas qu'il l'écorche. J'ai marqué « Émilie, virgule, la fille de votre fille ». Je lui ai tendu le papier, il a regardé sa voisine, qui a explosé de rire. J'avais 14 ans, et il a écrit sur la première page, il a écrit « bien sympathiquement, virgule », et il a signé « Jean Burger ». Il n'a pas fini son nom. Alors je me suis dit « bon, c'est pas très personnel comme dédicace », alors je me suis mise un peu sur le côté en attendant que les gens derrière moi passent leur tour, et puis il m'a regardé, il a relevé la tête comme ça, il m'a dit « si vous voulez me parler, mademoiselle, vous m'appelez ». Alors je suis partie. Et puis après, il m'a fait appeler par sa femme et elle m'a dit « Votre grand-père aimerait vous voir dimanche prochain ». Elle m'a donné l'adresse, j'y suis allée et puis on n'avait rien à nous dire. On est restés ensemble pendant une demi-heure, entrecoupés de silence gêné. Et puis à la fin, il m'a serré la main et il m'a dit « Mademoiselle, je crois que nous n'avons rien à nous dire, mais si vous avez besoin de moi, vous pouvez m'appeler. Au revoir monsieur, au revoir mademoiselle » et il est mort 2 semaines après. Voilà, c'était ma rencontre avec lui, mais quand j'ai voulu le rencontrer, personne ne m'a mis de barrière. On m'a donné son numéro quand je suis sortie du magasin, quand il m'avait dit « vous pouvez m'appeler », on m'a dit ben, « tiens, voilà son numéro si tu veux ». On pouvait en parler si on avait envie d'en parler, mais bon, on n'allait pas parler de quelqu'un qu'on connaissait pas bien.
Privé d'amour, comme un soleil sans flamme. Privé d'amour, comme un bateau sans rame. Je cherche où je vais, après quoi je cours, privé d'amour.
Avez-vous peur de l'avenir parfois, Michel Berger ?
Certainement, parce que l'avenir c'est quelque chose de Ça va vous paraître très, très peu gai, mais l'avenir des gens, c'est quand même de mourir. Et ça, j'en ai très, très peur. Et je trouve que c'est une injustice fondamentale épouvantable.
Michel, il avait une notion qui l'obsédait. C'était, et qui le supportait de moins en moins.
Bernard de Bosson.
C'était la notion d'inexorabilité. C'est quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter. Michel, il avait un adjectif qu'il employait souvent pour dire à quel point c'était quelque chose de très grave et de difficile à vivre. Mais il disait ça à propos de plein de choses. Il avait un adjectif qui revenait tout le temps dans sa bouche. Et alors, il avait une façon de le dire et de le prononcer qui était formidable parce qu'il s'écroulait, mais littéralement, il s'effondrait sur la deuxième syllabe. Il disait, c'était épouvantable. Voilà. Mais il se vautrait, tu vois, sur la... Extraordinaire. On parlait beaucoup de la mort. On parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup de la mort. Lui, il était justement, il trouvait absolument épouvantable que les choses s'arrêtent comme ça, et que surtout qu'on y soit amené de façon, justement, précisément inexorable, sans que rien, le moindre pichenette ou le moindre coup de foudre change les choses, quoi. C'était véritablement quelque chose qui l'obsédait, ça.
Quand son père est mort, il m'a appelé, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais cet après-midi ?» C'était un samedi. J'ai dit « Je vais aller me balader à Saint-Germain dans les galeries d'art, moi. »
Luc Plamondon.
Ben, il dit « Si on travaillait. » J'ai dit « Pourquoi ?» Ben, il dit « Mon père est mort ce matin. » Donc, tu vois, ça me fait réfléchir. Il faut faire ce qu'on veut faire dans la vie. Il faut le faire. Il faut le faire arriver. Il faut... Mais il m'a dit quand même, ce jour-là, il faut qu'on se dépêche de faire les grandes choses qu'on veut faire et qu'on n'a pas encore faites. Mais j'ai dit, écoute, ton père, il a 40 ans de plus que toi, bon, on a un peu de temps, t'es sûr que tu veux travailler cet après-midi? Il dit, oui, oui. Alors, j'ai été travailler avec lui cet après-midi-là. Et puis, il ne m'a plus jamais reparlé de la mort de son père. Il était comme ça, et même, il était stoïque. Il n'était pas, il avait, je pense, été élevé dans cette façon d'être. Il était tout le temps positif.
Visiblement, Michel témoigne, en tous les cas, ceux qui l'ont connu de longue date, a toujours vécu, depuis le départ de son père et le traumatisme formidable que ça a causé, avec cette idée que rien n'allait durer.
Yves Bigot, directeur de TV5 Monde et auteur d'une biographie sur Michel Berger.
Il y a la maladie de son frère qu'il apprend, semble-t-il, déjà très jeune, même si un certain nombre de déclarations des uns et des autres semblent être apocryphes. Mais visiblement, il avait malgré tout connaissance de la maladie de son frère. Sans doute connaît-il sa propre maladie à lui relativement rapidement. Et puis après, il y a aussi le malheur aveugle qui frappe, la mort de Daniel Balavoine, qui était vraiment son ami le plus proche, la mort de Coluche, qui était aussi quelqu'un dont il était très proche, la maladie de sa fille, et que ça a certainement participé de sa boulimie de travail et de vouloir réussir tout de suite et de se dire on n'a pas le temps, il faut faire les choses maintenant. Et donc sur son interventionnisme permanent qui surprenait beaucoup les uns et les autres, j'en fais partie. Moi, il m'appelait très souvent, très régulièrement pour parler de ceci, de cela, pour commenter des choses de l'actualité, pour commenter mes chroniques dans Libé, pour savoir si j'avais écouté le disque d'un tel et est-ce que je pensais la même chose que lui, pour se scandaliser de ci ou de ça, pour se réjouir de telle autre chose, pour lancer des projets, etc.
Il était très, 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 très actif.
Luc Plamondon.
Il n'arrêtait jamais, il voulait travailler tout le temps. Après la mort de Michel, France m'a dit, tu sais que tu étais la seule personne que je pouvais encore inviter sans lui demander l'autorisation. Inviter à dîner. Mais elle dit, j'ai compris pourquoi maintenant. C'est parce qu'avec toi, il continuait de travailler, même pendant le dîner. Il ne voulait pas perdre une minute, hein, c'est vrai.
Michel est quelqu'un de très actif. Il avait tout le temps 25 projets. Il composait des chansons pour d'autres artistes.
Patrick Haas, son cousin.
Il avait ce projet d'opéra, évidemment. On évoquait aussi la perspective de faire du cinéma. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas le genre de personne à se tourner les pouces et à compter les billets de banque qui s'accumule sur son compte bancaire. Pas du tout. C'est quelqu'un qui était justement prêt à investir tout ce qu'il avait dans un nouveau projet, justement un projet créatif, novateur. Et c'est ça qui lui tenait à cœur, c'est ça qui le faisait vibrer. Hein.
France venait d'avoir 40 ans. Elle avait ses enfants qui étaient en bas âge quand même. Elle voulait profiter de la vie. Voilà. Elle a décidé d'arrêter à 40 ans.
Serge Perratonnerre, son claviériste. Bon,
comme Michel, derrière, de toute façon, lui, il avait Starmania remontée. Il a écrit une autre comédie musicale, La Légende de Jimmy. Il y avait toujours 50 projets. Puis à un moment donné, vers 90, oh, pas longtemps après, en fait, oui, c'était deux ans et demi après, il avait envie de réécrire pour France, mais comme elle ne voulait plus chanter, il a trouvé ce compromis. C'est France qui a dit « Je veux bien chanter, mais on fait un duo et je m'occupe de l'album ». Donc il a dit « Ok ».
La genèse de ce disque double jeu a été très longue, très douloureuse.
Yves Bigot.
Parce que pour le coup, c'était un disque à égalité. Donc France donnait son avis sur tout, sur les chansons. Légitimement, hein, dirais-je. Il semblerait, d'après les témoignages de ceux qui étaient à l'enregistrement, qu'elle ait beaucoup critiqué la musique et les textes de Michel à cette période-là, trouvait que c'était pas à la hauteur, ou c'était pas à la hauteur de ce qu'elle attendait, ou de ce qu'elle avait envie de chanter, que c'était pas suffisamment moderne. France a toujours été obsédée par la modernité. Michel aussi, d'ailleurs. C'était un truc qu'ils avaient en commun. C'est un disque qui est assez froid, extrêmement synthétique, mais ce qui correspond aux valeurs hein, en même temps musicales et de production de l'époque. Hein, si on considère que, sans doute à l'époque, écoutait-il Depeche Mode et des groupes hein, un peu de, voilà, de cette tendance électro-rock anglaise, du synthé, de la batterie électronique, etc.
Michel Berger, tout pour la musique.
Parmi les nombreux projets que Michel mène de front, il y a celui de s'installer aux États-Unis et de réussir sur la scène internationale. Il décide alors de réaliser la version anglaise de l'un de ses plus gros succès, Starmania. Ce projet donnera naissance à l'album Tycoon.
À partir du moment où on a fait un succès quelque part, c'est plus facile de le transporter ailleurs. Et ce qu'on voudrait beaucoup, c'est le changer de forme, c'est-à-dire qu'il y ait des troupes qui soient de pays différents, qui puissent faire exister l'œuvre dans des langues différentes. Moi, je veux dire que je suis très passionné à l'idée qu'on pourrait le faire en anglais. Et c'est là où le langage international de la musique est vraiment assez extraordinaire, parce qu'on peut faire passer, je crois, des émotions maintenant à des centaines de millions de gens à travers le langage qui est la musique, puisque maintenant, il y a cette distribution commerciale mondiale qui est le disque et le spectacle. Ça, je crois que c'est un atout formidable pour un musicien qui n'existait pas dans les siècles qui se sont passés.
Et ce qu'il a réussi à monter, mais qu'il a épuisé dans des difficultés absolument incroyables, c'est ce qui s'est appelé Tycoon.
Yves Bigot.
Qui était donc la version anglophone, anglo-américaine en tous les cas, de Starmania, avec un certain nombre d'interprètes tout à fait prestigieux, hein, comme Willie DeVille, Tom Jones, Céline Dion, Cyndi Lauper... Et le chanteur de Cock Robin, mais ça lui a pris 2 ans, un nombre de refus absolument incroyable de tout un tas d'interprètes. Ça a été très compliqué. Il a passé son temps dans des avions, ça l'a épuisé. Ça, tout le monde a témoigné que entre les voyages, les soucis, le stress, sa vie compliquée, son studio hein, qu'il avait monté aussi à Paris, Michel, il était épuisé par ça. Il travaillait aussi sur son projet de film. Je veux dire, il y a un moment où je pense qu'il luttait tellement contre la montre que le temps lui manquait tellement qu'il s'est épuisé. Tycoon, alors, il n'a même pas eu le temps de voir sortir l'album, mais il a juste eu le temps de savoir que Le Monde est Stone, par Cyndi Lauper, était un tube en Grande-Bretagne. Et je pense que ça a été sans doute le moment où il s'est senti validé, j'imagine, puisque je ne lui ai plus parlé, je lui avais parlé peu de temps avant. Mais j'imagine que ça, pour lui, ça a été une récompense. Et une validation extraordinaire par rapport à ce qu'étaient ses ambitions.
Stone, the world is stone. It's no trick of the light. It's hard on the soul.
I'm not afraid to die.
Bonjour. Il était l'un de ceux qui avaient au piano ce que l'on appelle un phrasé, Michel Berger, et son style inimitable. Michel Berger disparut prématurément ce matin à l'âge de 45 ans. Il a succombé à une crise cardiaque.
Cérémonie de 20 minutes, un hommage discret et retenu à l'image de ce qu'était Michel Berger. Peu avant midi, la cérémonie a commencé avec un vibrant hommage de Jacques Attali au chanteur disparu.
Rien de ce que je dis là ne se veut consolation. Il ne peut pas y en avoir, il ne doit pas y en avoir. Le temps est à la colère, à la rage, à la révolte. Mais il aurait aimé, je crois, qu'on vive cela avec élégance. Il aurait eu tant de peine à faire de la peine.
En Angleterre, et puis j'ai pas très bien compris, on m'avait dit qu'il avait eu un accident. J'ai eu mon beau-père au téléphone qui me dit qu'il a eu un accident.
Emily Marx, sa nièce.
Alors d'abord, je comprends que c'est un accident de voiture. Après, il me dit rien. Alors, je comprends que c'est un peu grave. Et je lui dis, mais il va bien quand même. C'est grave, mais c'est pas grave. Il me dit non.
Il est mort.
Et alors là, je me suis dit que c'était même pas possible. De toute façon, on devait se voir 2 semaines après en Suisse, donc ce n'était pas possible. Donc je ne l'ai pas cru, on a raccroché, et puis c'était comme si le monde s'écroulait. Mais c'est vraiment le sentiment que m'expriment les gens quand ils apprennent que je suis sa nièce. Ils me disent « Ah, je me rappelle très très bien du moment où j'ai appris qu'il est mort, le 2 août. Je me rappelle, c'était en plein été, je faisais ci, je faisais ça, j'étais ci, j'étais là. » C'est que ce n'est pas possible. La réaction d'Annette, je ne l'ai pas eue en direct, puisque j'étais en Angleterre, j'étais coupée de tout le monde. Je me rappelle juste qu'on devait se retrouver tous en vacances vers le 5-7 août. On devait se retrouver en Suisse, passer des vacances normales, comme d'habitude. Je sais qu'elle a appelé Michel à la première crise cardiaque, que ce n'était pas le bon moment de lui parler, qu'elle a ressenti les choses physiquement comme une mère peut les ressentir. Ça a été une épreuve épouvantable pour la famille, vraiment terrible.
Alors Michel Berger, on le sait, va décéder de 3 crises cardiaques un dimanche.
Mathias Goudot.
Et il se trouve que dans l'après-midi, anecdote évidemment assez étonnante, France Gall et Michel Berger vont répondre à une interview, qui sera la dernière interview évidemment de Michel Berger. Et elle va raconter l'anecdote selon laquelle elle s'est promenée dans l'après-midi ou la veille et qu'une voyante est arrivée vers elle. Qu'elle lui a lu les lignes de la main. Et France, en plus, raconte ça le dimanche après-midi avec un large sourire parce qu'elle n'y croit pas vraiment. Et elle lui dit, la voyante dit à France Gall, voilà, vous allez rentrer dans l'éternité. Évidemment, France se marre, ils viennent de sortir leur album, elle ne sait pas ce qui va lui arriver. C'est perturbant. Il se trouve que Michel Berger, cette journée-là, lui, était plus inquiet parce que des sangliers avaient dévasté le jardin de leur propriétaire à Matuel. Ce qui n'a que d'intérêt les préoccupations d'un homme normal qui va aller faire une partie de tennis qui lui sera fatale, on le sait. Tout se passe bien, ils viennent de sortir un nouvel album en duo. Il se trouve que Michel Berger avait des projets, puisque Luc Plamondon, ils avaient parlé les quelques jours avant, en tout cas je crois que c'est 3 jours avant, de projets de refaire éventuellement une comédie musicale. Il se trouve que Michel Berger avait la volonté aussi de monter un opéra avec son ami d'enfance Jean-Philippe Saint-Jour. En tout cas, un vrai opéra classique. Jean-Philippe Saint-Jour, qui était devenu, à l'époque, s'était occupé de l'opéra Bastille. Donc, Michel Berger était quelqu'un qui foisonnait de projets. Il avait aussi l'intention de partir aussi en partie aux États-Unis. Donc voilà, donc toujours créateur. Il se trouve qu'il ne faut pas oublier que 6 mois avant, on revient au père, mais comme on est tous liés à son père dans la vie, mais ça a marqué forcément Michel Berger. 6 mois avant, le père de Michel Berger est décédé. Et il est parti une nouvelle fois, sans donner d'explication. C'est quelque chose qui le préoccupe. Il se trouve qu'un an avant, Michel Berger faisait du ski et a déjà eu une attaque à ce moment-là, en tout cas une première alerte. Et il se retrouve qu'il ne s'en est pas préoccupé, que son père avait effectivement laissé une lettre de recommandation à des médecins pour qu'il aille se faire ausculter.
Après sa mort,
Bernard de Bosson.
France m'a montré des courriers que le père de Michel avait donné à Michel pour qu'il aille voir des grands professeurs, où il s'adressait à son confrère, mon cher confrère, voilà. Mon fils présente certains problèmes, machin, etc. Il y avait un problème héréditaire dans la famille au niveau cardiaque, et Michel n'y a jamais été, bon, voilà, parce que moi j'ai dit encore une fois que Michel, il est mort du stress, hein. Là, il y avait peut-être quelque chose de congénital, j'en sais rien, je ne suis pas médecin. Et Michel n'a jamais été voir les... Peut-être que ça l'aurait aidé, peut-être qu'on aurait pu le récupérer, hein. Je ne sais pas si Michel avait réalisé l'importance de ça, je ne sais pas.
Tout le monde sait qu'on a du cholestérol dans la famille. J'ai du cholestérol. Je me soigne. Je pense qu'il pensait qu'il avait du cholestérol et que ça allait se soigner tout seul.
Après, on peut disserter de tout. Oui, il aurait dû, mais on devrait tous. Oui, il aurait pu, mais il n'a pas eu le temps. Oui, mais on devrait prendre le temps. Ah bon. On peut disserter de tout et expliquer tout a posteriori. Il se trouve que ce dimanche-là, quelles qu'étaient les raisons, fragilité ou pas, son frère décédé avec une maladie, on n'en sait rien. Il se trouve que, ironie du sort une nouvelle fois, et il ne s'agit pas de rire, mais Michel Berger fait 3 attaques cardiaques après une partie de tennis qui, contrairement à ce qu'on dit, n'était pas sous la chaleur incroyable, n'était pas dans des conditions d'une dureté pas possible puisqu'il voulait engager une autre partie. Et il se trouve qu'il ne va pas la fatiguer d'en, mais une fatigue classique va faire qu'il ne va malheureusement pas se relever après ses attaques.
Un jour, sa mère m'a dit...
Luc Plamondon.
Vous savez, j'ai réfléchi, Luc. Vous savez, ça m'a beaucoup révolté que Michel meure à 44 ans. Mais en refeuilletant mon histoire des musiciens, parce qu'elle était encore présidente à 90 ans du Conservatoire européen de musique. Hein. Ça avait été une grande pianiste classique, connue dans toute l'Europe. Et Poulenc avait composé un concerto pour elle. Elle était bon. Et donc, m'a dit en refeuilletant mon histoire des musiciens, je me suis rendu compte que la plupart des grands génies étaient morts encore plus jeunes que Michel. Mozart, Chopin, Gershwin, bon, il en a nommé. Elle m'a dit peut-être que finalement, ce qu'il avait à dire était dit.
Le jour où on se dit qu'on a tout pour être heureux, on ne fait plus rien. Je crois qu'on est toujours insatisfait. Je crois que c'est pas mal d'être insatisfait. Ça vous amène à bouger et à faire des choses. Vous savez, je crois qu'on a des tempéraments particuliers. Moi, j'ai un tempérament d'insatisfait. Je crois que je ne me dirai jamais que j'ai tout pour être heureux parce que j'aurais toujours envie de faire quelque chose que je n'ai pas réussi à faire. Et à chaque fois que je finis quelque chose, quand je finis un disque, je pense beaucoup à ce que j'aurais voulu faire et qui n'est pas dans le disque. Et ça, c'est un peu une question de tempérament aussi. Par expérience, maintenant, j'assume tout ce que j'ai fini. Je me dis que ça existe, je suis heureux que ça existe. Je suis heureux quand ça marche. Et finalement, quand je réécoute en plus longtemps après, je trouve ça très bien. Mais au moment où je le finis, je me dis qu'il manque des tas de choses que j'aurais voulu y mettre et qu'il faut absolument que je recommence un autre, que je mette d'autres choses dedans et que j'aurais voulu faire d'autres choses. C'est terrible, en plus d'être satisfait de ce qu'on fait, c'est un très mauvais réflexe. Les gens qui sont satisfaits de ce qu'ils font sont des gens en général assez inintéressants.
Mais vous êtes sûr de votre talent ?
Non, pas du tout. Je suis sûr d'être doué. Mais vous savez, à partir du moment où on est doué, il faut le mériter. On a du talent, si vous voulez, mais on peut le gâcher. Si vous voulez, on peut être doué et être très mauvais, parce qu'on gâche son talent, qu'on ne travaille pas, qu'on ne mérite pas le talent qu'on a. Le résultat est formidable quand on est doué et qu'on mérite ce don qu'on a par le travail qu'on donne et par un autre don qui est le don de soi. Et là, ça donne des résultats intéressants. Et qu'au niveau de l'inspiration, moi, j'ai des choses qui me viennent, et ça, c'est merveilleux d'avoir ça.
Dans le domaine de la musique, je crois que même dans le domaine de la poésie et dans beaucoup de domaines artistiques, les gens sont morts avant 40 ans. Hein. Gershwin, Rimbaud, Verlaine, tous ces gens-là sont morts pratiquement avant 40 ans.
D'autres
je
sont bien vivants,
vous
savez.
Je ne me prends pas du tout pour Gershwin ni pour Rimbaud. Mais je veux dire, je crois que...
Vous voudriez bien quand même.
Non, je ne me pose pas du tout ce problème-là. Vous savez, alors là, ça, je suis vraiment libéré de... Les problèmes de postérité, je crois que c'est à peu près terminé. C'est pas comme ça que le problème se pose, c'est que je voudrais faire ce que j'ai envie de faire. Il me reste des choses à faire, j'aimerais bien avoir un peu de temps encore.
Il y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir. et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner. Il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer, recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats. Retrouver les baleines, parler aux poissons d'argent, comme avant. Il y a tant de vagues et tant d'idées. Le faux du vrai, et qui aimer ou condamner. Le jour où j'aurais tout donné, que mes claviers seront usés d'avoir osé vouloir tout essayer et recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les manchots s'amusent dès le soleil levant et jouent en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où l'air reste si pur qu'on se baigne dedans, à jouer avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant.
Le Paradis Blanc, Michel Berger, tout pour la musique, c'était le feuilleton des radios francophones publiques de l'été. La semaine prochaine, entre 10h et 11h sur France Inter, on aura tout vu, ce sera avec Laurent Delmas et Christine Masson, bien sûr.